Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison consacré à un astronome. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un grand astronome et un grand cosmologiste des 20 et 21e siècles, Stephen Hawking. Il a travaillé principalement sur la cosmologie et les trous noirs et a grandement contribué à la vulgarisation de l'astrophysique. Stephen Hawking est né le 8 janvier 1942 à Oxford, en Angleterre. Et comme il le rappelait lui-même à titre anecdotique, il est né 300 ans jour pour jour après la mort de Galilée, lui-même mort le 8 janvier 1642. Il est le fils du docteur Frank Hawking, un chercheur biologiste, et d'Isabelle Hawking, une militante politique. Il a deux jeunes sœurs, Mary et Philippa, et un frère adoptif, Edwards. Ses parents vivaient à 30 km au nord de Londres, jusqu'au jour où ils ont déménagé à Oxford. Isabelle était alors enceinte de Stephen. Ils désiraient un endroit plus sûr pour la naissance de leur dernier enfant, parce que Londres était, à l'époque, attaquée par la Luftwaffe. On était en pleine Deuxième Guerre mondiale. Selon l'une des publications de Hawking, un missile V2 a explosé à quelques rues de l'endroit où ils étaient. Après la naissance de Stephen, la famille revient s'installer à Londres où son père dirige la division de parasitologie de l'Institut National de Recherche Médicale. Stephen Hawking a toujours été intéressé par les sciences. Il s'inscrit à l'université d'Oxford avec l'intention d'étudier les mathématiques, bien que son père aurait préféré qu'il aille en médecine. Étant donné que les mathématiques n'étaient pas proposées, Hawking choisit alors la physique. Ses intérêts au cours de cette période sont la thermodynamique, la relativité et la mécanique quantique. Son prof de physique, Robert Berman, déclara plus tard dans le New York Times Magazine « Il était uniquement nécessaire pour lui de savoir que quelque chose pouvait être fait et il pouvait alors le faire sans chercher à voir comment d'autres personnes l'avaient fait. » Arrive alors l'examen final de la deuxième année. Pour passer en seconde année, Hawking arrive à cet examen oral et Berman dit alors de lui « Et bien sûr, les examinateurs ont été assez intelligents pour réaliser qu'il parlait à quelqu'un d'encore plus intelligent que la plupart d'entre eux. Après avoir obtenu son diplôme BA à Oxford en 62, il y reste pour étudier l'astronomie. Il décide cependant d'arrêter, étant plus intéressé par la théorie et par l'étude des taches solaires. Il quitte Oxford avec les honneurs pour aller à Cambridge, au Trinity Hall, où il participe à l'étude de l'astronomie théorique et à la cosmologie théorique. Dès son arrivée à Cambridge, il commence à développer les symptômes de la sclérose latérale amyotrophique à début limbique, appelée en France la maladie de Charcot, une maladie des neurones moteurs qui lui enlève presque tout contrôle neuromusculaire. Au cours de ses deux premières années à Cambridge, il ne se distingue pas, mais après la stabilisation de sa maladie avec l'aide de son tuteur de doctorat, William Dennis Sciama, il poursuit sa thèse de doctorat intitulée « Properties of the Expanding Universes ». Propriété de l'univers en expansion. Il révèle alors qu'il ne voyait pas beaucoup d'intérêt à obtenir un doctorat s'il devait mourir bientôt. Hawking a déclaré plus tard que le véritable tournant a été son mariage, en 1965, avec Jane Wilde, une étudiante en linguistique. Après avoir obtenu son doctorat, Stephen Hawking est devenu chercheur à Gonville et au Caius College de Cambridge. L'étude des singularités, concept astronomique et physique tout à fait récent, permet aux chercheurs de développer différentes théories qui le mèneront plus tard du Big Bang au trou noir. En premier lieu, Roger Penrose et Stephen Hawking construisent la structure mathématique répondant à la question d'une singularité, comme l'origine de l'univers. Ensuite, à partir des années 70, Stephen Hawking approfondit ses recherches sur les densités infinies locales. Et ses études sur les trous noirs ont fait progresser bien d'autres domaines. Enfin, la théorie du tout visant à unifier les quatre forces physiques est au centre des dernières recherches de Hawking. La théorie du tout vise à harmoniser d'un côté les théories de la gravitation et de l'autre côté les théories quantiques. La gravité, c'est cette force qui attire les objets les uns vers les autres, qui maintient les planètes en orbite autour des étoiles, qui gouverne la structure à grande échelle de l'univers. Elle est décrite par Albert Einstein dans sa théorie de la relativité générale comme une courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. La relativité générale explique bien le comportement de la gravité à grande échelle, comme c'est le cas dans les étoiles, les galaxies et l'univers tout entier. La théorie quantique, de son côté, décrit trois autres forces. L'électromagnétisme, cette force qui est responsable des interactions entre les particules chargées électriquement, comme les électrons et les protons. Elle explique des phénomènes comme la lumière, le magnétisme, l'électricité. Et également les forces nucléaires fortes et faibles qui décrivent la façon dont les particules subatomiques, les quarks, les neutrinos et autres toutes petites structures interagissent. Le problème, c'est que la théorie quantique, qui est extraordinairement précise dans ses prédictions, est fondamentalement incompatible avec la relativité générale. Principalement parce que la théorie quantique est basée sur des prédictions et des statistiques. On dit qu'elle est discrète, c'est-à-dire qu'elle permet de connaître la probabilité pour une particule d'être à tel endroit ou dans tel état. Alors que la relativité générale, elle, est continue. Elle décrit un univers lisse et mathématiquement continu. Et tant que ces théories n'auront pas été unifiées, des paradoxes et des blocages subsisteront dans notre compréhension des phénomènes extrêmes de notre univers, comme les trous noirs ou les débuts de l'univers, ces fameuses singularités qui passionnaient tant Stephen Hawking. Plusieurs théories ont été proposées pour combler ce fossé. La théorie des cordes, qui propose que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais plutôt des objets unidimensionnels qu'on appelle des cordes. Selon cette théorie, les différentes vibrations de ces cordes correspondent aux différentes particules élémentaires. La théorie des cordes a le potentiel d'unifier toutes les forces, mais elle est extrêmement complexe et n'est pas encore complètement développée ni vérifiée expérimentalement. Une autre théorie, c'est la gravité quantique à boucle. C'est une approche qui consiste à quantifier directement la gravité en conservant l'idée d'un espace-temps discret, comme dans la théorie quantique. Cette théorie postule que l'espace-temps pourrait être constitué de boucles ou de réseaux de relations quantiques, ce qui pourrait permettre de réconcilier les deux cadres théoriques actuels. Vous l'avez compris, cette théorie du tout n'est pas tout à fait finalisée, même s'il y a des bons candidats. Elle sera certainement le déclencheur de grandes avancées au niveau théorique, mais aussi dans la pratique, ouvrant de nouvelles voies à l'exploration scientifique et technologique. Mais revenons d'abord aux années 70. En 74, Hawking est l'un des plus jeunes membres élus de la Royal Society. Il est fait commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique en 82, il devient compagnon d'honneur en 89. Hawking est également membre du Conseil des auteurs du Bulletin des scientifiques atomiques. Les travaux de Hawking ont été réalisés en dépit de l'aggravation de sa paralysie, causée par la maladie de Charcot. En 1774, il est devenu incapable de se nourrir ou de sortir du lit par lui-même, tandis que son élocution était fortement altérée par la maladie, de sorte que seules les personnes qu'il connaissait vraiment bien pouvaient encore le comprendre. En 85, il a contracté une pneumonie, il a dû subir une trachéotomie pour mieux respirer. Ça l'a rendu définitivement incapable de parler. C'est à cette époque que l'on proposa à Jane Wilde d'éteindre la machine qui le raccrochait à la vie. De fait, les médecins n'estimaient pas possible que Stephen Hawking puisse un jour aller mieux. Pour autant, Jane refusa. Les médicaments firent peu à peu leur effet et permirent à Stephen de se remettre partiellement de sa pneumonie. Walt Waltos, un informaticien de Californie, a construit un dispositif permettant à Stephen Hawking d'écrire sur un ordinateur avec un commutateur dans sa main, tandis qu'un synthétiseur vocal parlerait pour lui, lisant ce qu'il venait de taper. Ayant perdu l'usage de ses mains, il utilise à partir de 2001 les contractions d'un muscle de sa joue, détectées par un capteur infrarouge fixé à une branche de ses lunettes, pouvant ainsi sélectionner les lettres une par une sur un clavier virtuel d'une tablette, dont un curseur balayait en permanence l'alphabet, puis sélectionner des mots grâce à un algorithme prédictif. Ce système lui permet d'exprimer 5 mots à la minute et de donner des cours à l'université de Cambridge jusqu'en 2009. Face à l'aggravation de son état, Intel met alors au point une nouvelle interface de contrôle basée sur la reconnaissance faciale des mouvements de ses lèvres et de ses sourcils. La nécessité de toujours peser ses mots, au risque d'en effacer d'autres dans le vocabulaire automatique, n'a pas nui à son style d'une grande limpidité, et en particulier dans son livre que je vous conseille, Une brève histoire du temps, qui est sorti en 1988. Hawking a cherché à vulgariser son travail, et son livre Une brève histoire du temps est l'un de ses plus grands succès, et même l'un des plus grands succès de la littérature scientifique. Il est resté sur la liste des best-sellers du Sunday Times pendant 237 semaines consécutives, un record. En 2001 paraît son deuxième ouvrage, L'univers dans une coquille de noix, qui est l'exposé du dernier état de ses réflexions, où il aborde la supergravité, la supersymétrie, la théorie quantique, la théorie M, l'holographie et la dualité, la théorie des supercordes, la théorie des pébranes, etc. Il s'interroge également sur la possibilité de voyager dans le temps et sur l'existence d'univers multiples. En 2007, il écrit un livre avec sa fille, George et les secrets de l'univers, premier tome de la série George qu'il écrira avec elle. Le 14 mars 2018, Stephen Hawking meurt à son domicile de Cambridge, à 76 ans. Durant la journée de Pi, car Pi est fêté tous les 14 mars. C'est aussi l'anniversaire de la naissance de Albert Einstein. Alors que le monde scientifique, politique, culturel rend hommage à un homme, la page Wikipédia de l'astrophysicien enregistre des records. Plus de 7 millions de consultations le jour de sa mort sur la page en anglais et plus d'un demi-million sur la page en français. Mais revenons un peu aux travaux de Stephen Hawking. Ses contributions à la cosmologie, à la théorie des trous noirs, à la physique quantique ont révolutionné notre compréhension de l'univers. La contribution la plus célèbre de Stephen Hawking, c'est la prédiction du rayonnement de Hawking en 1974. Selon cette théorie, les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais émettent un faible radiant dû à des effets quantiques près de la zone de l'horizon des événements. Cette théorie combine les aspects de mécanique quantique et de relativité générale. L'idée repose sur la création d'une paire de particules-antiparticules près de l'horizon des événements d'un trou noir. Si une particule de la paire tombe dans le trou noir, l'autre s'échappe. Le trou noir perd alors un petit peu de sa masse. Ce processus conduit à l'idée que les trous noirs peuvent s'évaporer sur des échelles de temps extrêmement longues. La théorie du rayonnement de Hawking a jeté les bases à de nombreuses recherches en physique théorique et a ouvert la voie à des discussions sur la nature de l'information et la thermodynamique des trous noirs. Avec Roger Penrose, Hawking a démontré le théorème des singularités, qui stipule que sous certaines conditions, l'univers doit contenir des singularités spatiales. Ces points de densité infinie sont les points où les lois de la physique, telles que nous la connaissons, ne peuvent plus s'appliquer. Un très bon exemple de cette singularité, ce sont les trous noirs. En utilisant les équations de la relativité générale d'Einstein, Hawking et Penrose ont montré que les singularités sont une caractéristique inévitable de l'univers si la relativité générale est correcte. Leur travail implique que le Big Bang lui-même est une singularité, marquant le début de l'espace-temps et de la causalité. En dehors de ses contributions théoriques, Stephen Hawking a aussi joué un rôle crucial dans la popularisation de la science. Son livre « Une brève histoire du temps » publié en 88 a rendu des concepts complexes de la cosmologie accessibles au grand public. Il a vendu des millions d'exemplaires et a suscité un immense intérêt pour la cosmologie et la physique théorique. Hawking est devenu un modèle pour les scientifiques du monde entier, montrant qu'il est possible de faire des recherches de pointe tout en communiquant efficacement avec le public. Stephen Hawking a laissé un héritage durable dans le domaine de la physique théorique et de la cosmologie. Ses contributions ont non seulement façonné notre compréhension des trous noirs, de l'univers, des lois fondamentales de la physique, mais également inspiré des générations de scientifiques et de passionnés de science. Sa capacité à expliquer les concepts complexes de manière accessible a joué un rôle crucial dans la diffusion de la science auprès du grand public, faisant de lui l'un des scientifiques les plus influents et respectés de son temps.